Je m'attaque en 5 épisodes à l'année 1968. Du temps donc d'Europe numéro 1. Au programme de ce premier épisode, la ménagère découvre le lave-vaisselle, l'arrivée du surgelé, la pub qui débarque à la télé, la France qui perd un sous-marin et une expérience de radio en relief.
1968, on de la raconte sur Europe 1.
1968 résonne comme une année de révolution politique. Mais côté vie courante, ça bouge pas mal aussi. La société de consommation bat son plein et le 14 mars 1968, au salon des arts ménagers, débarque la toute première machine à laver la vaisselle.
La machine est équipée d'un adoucisseur d'eau. Vous savez qu'il se pose un problème, c'est que quand vous faites sécher votre vaisselle, en principe vous avez des dépôts de calcaire sur vos verres et vos cristaux.
Oui.
Là, vous introduisez une dose de sel à chaque vaisselle.
Du gros sel marin ordinaire.
Qui vous régénère des résines qui sont dans l'adoucisseur d'eau, oui. Et qui fait que votre eau est adoucie avant de rentrer dans la machine.
Oui.
Elle est dégagée de tout calcaire, donc vous n'aurez pas ce problème de séchage, vous aurez des verres impeccablement brillants.
Cette eau est propulsée, elle est chaude, elle est froide?
Vous avez deux températures différentes. Vous avez les verres fragiles à 50 degrés et les casseroles très attachées à 65 degrés.
Parce que les casseroles, vous les lavez aussi?
Oui, bien sûr.
C'est idéal, ça. Alors.
On garantit le lavage des
casseroles. Non, parce qu'en général, ce qu'on craint toujours, ce qui est le plus difficile, ce sont les casseroles.
Et la suite de l'interview est typique de 1968. C'est-à-dire que le journaliste d'Europe numéro 1 s'étonne qu'un homme s'intéresse à ce nouvel appareil.
Il y a un problème spécial en ce qui concerne la disposition des pièces à l'intérieur de la
Absolument
machine?
Absolument pas, c'est vous, enfin c'est votre dame qui s'habituera à sa machine et
monsieur.
Qui...
Justement une question monsieur, vous êtes au salon des arts ménagers avec votre femme?
Oui.
Mais alors c'est vous le mari qui demandez des explications?
Oui, parce que précisément c'est pratiquement moi qui fais toujours la vaisselle. Nous travaillons tous les deux, et bien il faut se répartir les tâches.
En 1968, les arguments en faveur du lave-vaisselle sont tout trouvés. La maîtresse de maison se libérera du temps pour d'autres tâches.
Prenons l'exemple d'un ménage moyen. Jeune couple, deux enfants, quatre personnes, très peu de vaisselle à faire. Une femme qui a l'habitude, et même si elle est aidée par son mari, le temps de le laver, tremper dans l'eau, laver, essuyer, ranger, ça va très très vite. Est-ce qu'on gagne vraiment du temps avec une machine?
On compte en moyenne pour quatre personnes, deux heures à faire la vaisselle par jour. C'est prouvé d'ailleurs, c'est le temps qu'on passe, il faut la préparer, enfin la mettre dans la cuvette, il faut la laver. Il faut la rincer, il faut l'essuyer. Donc, en parlant prix de machine à laver, en comptant deux heures d'utilisation, enfin deux heures de vaisselle par jour, une bonne, on la paye à la moyenne de 500 francs de l'heure, ça vous fait 1000 francs par jour. À l'année, ça vous fait 365 000 francs de temps passé à faire la vaisselle. Donc, on peut dire que notre machine, enfin, une machine à laver la vaisselle, c'est rentable dans la première année.
Et une machine, ça vaut encore très 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 cher en France.
Oui, disons qu'une bonne machine coûte plus de 2500 francs. C'est pas cher à l'usage, c'est cher à l'achat.
En 1968, ce sont les hommes qui achètent les lave-vaisselle, mais ils n'ont pas du tout l'intention de s'en servir eux-mêmes.
Jamais, jamais. Pour quelle raison? Parce que c'est pas mon rôle. Ah, je rentre tard, je rentre fatigué, c'est pas encore le moment de se mettre à faire la vaisselle.
Là, quel est votre rôle?
C'est d'admirer la femme qui fait la vaisselle.
Madame est là, vous êtes votre femme. Alors qu'en pensez-vous, madame, de ce que vient de dire votre mari?
C'est normal.
Toutes les femmes seront-elles de cet avis? Il faut certainement en douter. Et les hommes aident quand même, bon gré mal gré, leurs épouses à cette tâche fastidieuse, tel monsieur Chevalier, secrétaire général du salon.
Bien entendu, faire la vaisselle assez plus souvent, mais l'essuyer chaque fois que notre aide ménagère est absente et que ma femme fait la vaisselle, eh bien, je l'essuie très bien.
Est-ce que vous pensez que l'entrée des appareils électroménagers dans la vie a changé la vie de la famille?
Ah, mais c'est certain. En libérant la femme d'un certain nombre de besognes fastidieuses ou pénibles, les appareils ménagers lui ont fait gagner un temps précieux qu'elle peut employer à la culture et aussi à s'occuper et de son mari et de ses enfants. Ils ont aussi transformé l'atmosphère du foyer. Il n'est que de se rappeler ce qu'était le jour de la lessive. Dans une bonne famille bourgeoise, il y a 50 ans, ce débordement, cette mauvaise humeur, l'homme en bénéficie, bien entendu. En rentrant le soir, il trouve une femme reposée, souriante, coquette, agréable, au lieu de trouver une femme exténuée et qui ne songeait qu'à aller se coucher.
Après le lave-vaisselle, Autre révolution de 68, l'arrivée du surgelé.
Nouveau de Frisco. Pizza surgelée. Une vraie pizza italienne avec tous les condiments, prête à cuire. Terminer la cuisson au four, rien de plus simple avec la pizza Frisco. Quel délice, la nouvelle pizza pour 2,35 francs seulement, de Frisco.
Le groupe suédois Findus lance dans l'Hexagone ses tout premiers produits congelés. Un poisson à la bordelaise et un poisson à la provençale. Et pour réchauffer tout ça, un appareil futuriste, le micro-ondes.
Les ondes radar au service de la cuisine. Est-ce un gag ou une réalité? Jugez-en vous-même. Ce plat surgelé, sorti de la case spéciale de votre réfrigérateur, sera prêt en 30 secondes grâce à ce four à micro-ondes.
Les débuts du surgelé en France sont très timides. En 1968, un Français consomme 720 grammes de produits surgelés, alors qu'un Norvégien en mange 25 kilos. Mais pour Monsieur Avalon, responsable de l'une des premières usines françaises de surgelé, les Français vont s'y mettre vite.
Monsieur Avalon, est-ce que vous pensez que la surgélation soit un grand pas d'accompli et est-ce une solution d'avenir en ce qui concerne les produits, la conservation de ces produits?
Sans aucun doute. Sans aucun doute, lorsque le Français aura pris un petit peu plus, seulement un petit peu plus, l'habitude de consommer des produits surgelés, il est bien évident que la consommation doit être multipliée par 5, par 10, par 20. On ne peut pas savoir au départ, on ne peut pas savoir à l'heure actuelle ce que sera le débit des produits surgelés dans l'avenir. Il est bien évident que si aux consommateurs on fait admettre que des produits surgelés sont des produits de première qualité, il n'y a pas de problème que le Français viendra aux produits surgelés comme le Norvégien.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
C'était What a Wonderful World, tube de Louis Armstrong en 1968.
1968, Ondelat raconte sur Europe 1.
Le 1er octobre 1968, la télévision française découvre tout doucettement la publicité. Pour l'instant, la réclame n'est autorisée qu'entre 19h57 et 19h59, juste avant l'édition du journal du soir. est la toute première publicité mettant en scène un homme qui se réveille en pleine nuit et qui a une envie subite de manger du fromage.
Du boursin, 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 du boursin.
Saveur d'une pointe d'ail, herbe du jardin, véritable ail et fines herbes.
Dans ces toutes nouvelles réclames à la télévision, on essaye aussi de vendre aux Français des tricots.
Indéformables, mon tricot belle.
Les tricots belles. Indéformables, les tricots belles.
En 1968, l'écran de publicité de 30 secondes, juste avant le journal de 20 heures, coûte 70 000 francs. Et le message à faire passer, c'est déjà l'authenticité. Régilé, par exemple, qui fabrique du lait en poudre, fait meugler des vaches à l'heure du petit déjeuner.
Régilé, le premier lait en poudre qui vous donne l'impression qu'on le boit à la campagne. Car Régilé provient des meilleurs pâturages et ça se reconnaît. Quel bon goût!
En 1968, seules trois catégories de produits sont autorisées à faire de la réclame à la télé. L'alimentation, le textile et les équipements électroménagers. Et Schneider s'amuse à pasticher un jeu télévisé de questions-réponses.
Monsieur Guillou, citez-moi un téléviseur portable à écran super carré.
Le Futura Schneider.
Bravo. Vous continuez?
Oui.
Tangara, c'est une rivière?
Ah non, 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 ça c'est un électrophone haute fidélité Schneider.
Bien. Une grande marque qui offre le choix entre trois téléviseurs couleurs.
Schneider.
Mais dites-moi, vous êtes incollable?
Bien sûr. Je suis distributeur Schneider. On peut tout demander à un spécialiste Schneider.
On aime le beurre, on choisit Virlux. En plaquette ou en beurrier, beurre Virlux.
L'arrivée de la publicité sur le petit écran est aussi une aubaine pour tous ceux qui aiment bien lui taper dessus. En fin d'année 68, Jean-Yann et Annie Girardot font un sketch sur cette intrusion des marques à la télé. Girardot lit une fable de La Fontaine et elle est sans cesse interrompue par les pubs jouées par Jean-Yann.
Oh bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
Petite madame, les hôtes du bois ne sont pas seulement les corbeaux. Ce sont également les termites qui rongent vos chaises et s'attaquent à vos armoires et bahuts. Luttez contre les termites grâce à Cubette, la cire parfumée qui contient du gramichophénal de furzinazole super incrustant. Pour vos bois de lit, utilisez chaque jour Cubette, la crème de beauté du buffet.
Les hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, le renard, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie.
Une proie qui tombe, et voilà votre moquette tachée, votre tapis souillé. Mais non, madame, si vous recouvrez vos sols avec Golmugène, le textile mis au point par les laboratoires Fronge, obtenu par dépouissage de la fibre et autoclignolisation de la sous-couche orniculaire, Golmugène absorbe les taches et les transforme en ravissants motifs à ramage imitant le point de Hongrie. De plus, Golmugène est imprégné de tarpouinol infralustrant et astique vos semelles.
Mais l'arrivée de la publicité à la télé ne contrarie pas du tout l'amour des Français pour le petit écran. En 1968, une famille sur deux est équipée d'un poste télé. Certains passent leur journée devant le poste. Et ça inspire le réalisateur Jean-Pierre Mocky, qui fin 68 sort le film La Grande Lessive. Bourville y incarne un instituteur qui n'en peut plus d'avoir des élèves qui dorment en cours après avoir passé toute leur soirée devant la télé.
C'est désespérant, ça, juste. La France télévisée dort en classe.
C'est bien simple, ça ne peut plus durer.
Mais je n'y peux rien, je multiplie les rapports et les rapports.
Des rapports qui s'entassent, de quoi nourrir un milliard de rats. Mes respects, monsieur l'inspecteur.
Au revoir.
Il n'y a pas de rat ici.
Et vous alors, qu'est-ce que vous êtes?
Dans La Grande Lessive, Bourville part en croisade contre la dépendance des Français à la télévision. Et donc le soir, il grimpe sur les toits pour saccager les antennes.
On vous a accusé, Mocky,
d'être quelqu'un qui cherche dans ses films à faire scandale, et par le scandale à forcer le succès.
Non, je ne cherche pas à me faire remarquer à travers le scandale, puisque j'ai une vie, et je crois, le scandale, je crois que le scandale, j'en ai pas provoqué beaucoup, à part celui de la grande lessive. Je crois que je cherche à remuer les gens, alors évidemment ça profite au film, mais c'est pas tellement pour, je recherche pas le scandale.
Quand on a dit que j'ai fait un film contre la télévision, c'est exact dans une certaine mesure, mais c'est pas tellement contre les gens qui font de la télévision, c'est plutôt contre l'invention elle-même et les parents qui se débarrassent de leurs enfants, justement, en les laissant devant la télévision tout le temps.
Les enfants font une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur.
Adieu, monsieur le professeur, extrait de l'album d'Hugo Frey, sorti en 1968. Cette chanson est inspirée par le départ à la retraite de l'instituteur de la fille du chanteur.
1968, on de la traconte sur Europe 1.
Le 27 janvier 1968, le sous-marin français La Minerve ne répond plus. Le submersible était en manœuvre au large de Toulon. Il est porté disparu avec à son bord 6 officiers et 46 hommes d'équipage. Lors du dernier contact radio, pourtant, tout semblait normal à bord. Sur Europe numéro 1, le spécialiste scientifique Albert Ducrot explique comment un sous-marin peut couler à pic.
Un submersible, en effet, reste dans la mer à une profondeur constante si sa densité est celle de l'eau qui l'environne. Cela étant, lorsque la profondeur croît, la pression de l'eau augmente. Elle augmente de 1 tonne par mètre carré chaque fois que vous descendez de 1 mètre. Alors le sous-marin est davantage comprimé. Ce qui augmente sa densité et tend ainsi à le faire descendre plus bas. Il atteindra de ce fait une profondeur encore plus grande où la pression de l'eau sera encore plus élevée, ce qui aura pour effet d'augmenter encore sa densité et le processus ne pouvant aller qu'en s'accélérant. Cette instabilité, le bathyscaphe, notez-le, l'évite par sa forme, qui le rend à peu près incompressible. En revanche, elle est l'apanage obligatoire de tous les sous-marins, si perfectionnés soient-ils. Dès l'instant où, à bord d'un sous-marin, le processus d'autodescente s'est amorcé, par exemple par suite d'une panne des pompes, le mouvement ne peut malheureusement que se développer, cela jusqu'à ce que le sous-marin touche le fond de la mer.
Pour tenter de localiser la Minerve, la France déploie d'importants moyens.
Ces moyens sont très importants et concernent à peu près l'ensemble de la 3e région maritime. Il y a un certain nombre d'escorteurs, dont je donne quelques noms, le Quercin, le Jory du Berry, le Labourdonnais, le Bouvet, le Béarnais, l'Agenais, ainsi que le Clémenceau avec ses moyens aéronavals, en particulier 2 flottilles d'hélicoptères, c'est-à-dire 19 hélicoptères et 2 super frelons.
Comment se passent les recherches? Il y a un quadrillage dans le secteur où l'on présume que le sous-marin a disparu.
Oui, alors le secteur d'exercice du sous-marin était bien connu, il ne devait normalement pas en sortir, et il n'y avait également pas d'autres sous-marins autorisés à pénétrer dans cette zone.
Combien de temps la Minerve peut-elle rester sous l'eau?
Bien normalement, un sous-marin de ce type a une autonomie de plongée de l'ordre d'une centaine d'heures, c'est-à-dire qu'on peut compter que les recherches durent au minimum 4 jours.
Les premières recherches ne donnent rien. Alors, en attendant, on suppute sur les causes de la disparition du sous-marin.
Alors, qu'est-ce qui a pu arriver? On parle de collision.
On peut évidemment penser qu'il y a eu un abordage avec un cargo. Ceci semble une solution bien difficile, car le cargo, normalement, aurait senti le choc. Et aucun bâtiment de commerce n'a signalé une chose semblable. On pourrait également supposer qu'il y ait un haut fond non reconnu, mais ceci semble évidemment bien peu probable, étant donné que les fonds dans le secteur sont de l'ordre de 2500 mètres et sont parfaitement connus puisqu'ils constituent une zone d'exercice courante pour les sous-marins.
Une explosion de machine, est-ce que c'est possible ?
Ce n'est pas impossible, évidemment, mais enfin, tant qu'on n'aura rien retrouvé, il est très difficile de faire des hypothèses.
Deux jours de recherche et toujours aucune trace de la minière. Pourtant, les moyens mobilisés restent très importants.
Alors nous veillons, effectivement, nous utilisons tous les moyens à notre disposition. Depuis deux jours, évidemment, la vue. Tous les bateaux ont des couronnes de veille armées au maximum et qui recherchent tous les indices visibles en surface. Nous utilisons aussi tous les moyens électroniques dont nous disposons. Nos sonars en veille tant active que passive, les sondeurs, les téléphones sous-marins. En un mot, tout ce qui peut nous donner un indice de la présence d'un bateau. Malheureusement, ces indices sont à la fois très nombreux et peu significatifs. Et ce que nous faisons depuis 24 heures est de recueillir tout ce que nous pouvons et d'investiguer systématiquement, à fond, par tous les moyens, tout indice, si négligeable soit-il. Nous repêchons, par exemple, tous les débris qui flottent sur l'eau. Nous les recueillons pour les examiner à tête reposée, tant à bord qu'à terre, pour être certain que ces débris n'appartiennent pas à la minière.
Au troisième jour, un sonar détecte l'écho d'une masse métallique au large de Porquerolles. Spontanément, le commandant Jacques-Yves Cousteau propose ses services avec son matériel, une soucoupe plongeante qui peut travailler à 300 mètres de profondeur. Idée acceptée.
Il ne faut évidemment pas en déduire qu'il s'agisse de l'épave de la Minerve. Bien au contraire, car il peut y avoir un certain nombre d'épaves au fond de la mer. Et pour le moment, on continue à investiguer ce contact.
Vous avez fait appel également, je crois, aux Américains. Ils disposent de moyens supérieurs, peut-être.
Il est exact que nous avons fait appel aux autorités navales américaines. Et Washington nous a confirmé qu'il pouvait éventuellement nous envoyer, le cas échéant, par avion, des manches spéciales qui permettent de souffler de l'air dans un sous-marin à une profondeur de l'ordre d'environ 200 mètres.
Quand pourra-t-on savoir s'il s'agit vraiment de la Minerve ?
Je pense que nous ne pouvons pas avoir de renseignements précis avant la matinée de demain, car il faut que la soucoupe Cousteau plonge et aille investiguer les lieux avec évidemment beaucoup de précision.
Le commandant Cousteau lui-même plonge avec sa soucoupe. Et finalement, chou blanc, aucune trace de la Minerve.
On n'a pas trouvé le sous-marin.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait un écho et vous l'avez localisé, c'est
oui.
Quelque chose.
On a eu du mal d'ailleurs, on a fini par le retrouver. J'ai bien cru remonter sans arriver à le retrouver, mais enfin, c'est-à-dire, on a retrouvé l'engin. Et pendant une seconde, on a eu une émotion, on s'est retrouvé brusquement devant une muraille de fer. On a cru que c'était lui. Donc, c'était une mahone, une grosse mahone de 8 mètres de haut qui était coulée là depuis très longtemps parce qu'elle était incrustée de concrétion rougeâtre, brune.
À quelle profondeur ?
140. Malheureusement, avec les jours qui passent, l'espoir disparaît. Mais il reste quand même une chose à faire, c'est de trouver les causes. Même si c'est dans un mois, il faut retrouver cette épave. Il faut l'identifier, il faut savoir pourquoi elle a coulé. Il le faut.
Cela fait maintenant trois jours qu'on cherche. Et à bord de la Minerve, les marins n'ont plus qu'une seule journée d'autonomie. On craint pour la vie des 52 occupants.
Bien pour le moment, les recherches de sauvetage proprement dit continuent, avec les mêmes moyens qui depuis 4 jours. Elles n'ont donné jusqu'ici aucun résultat. Nous n'avons que des échos épars qui n'ont pas grande signification. Et nous attendons l'ordre de Paris pour cesser ces recherches de sauvetage proprement dites, c'est-à-dire dans la journée de demain ou peut-être d'après-demain. Et ensuite, nous passerons à un deuxième stade de recherche, c'est-à-dire l'investigation détaillée du fond, pour permettre éventuellement de retrouver, non pas des survivants, mais une épave, car la découverte de cette épave est évidemment pour nous d'un intérêt capital, de façon à pouvoir peut-être expliquer les causes de cet accident qui jusqu'ici pour nous demeure inexpliqué. Et on peut dire que même dès maintenant, les chances de retrouver des survivants sont à peu près nulles.
Deux nouvelles plongées de la soucoupe du commandant Cousteau ne donnent aucun résultat.
Le commandant Cousteau descend, nous ne savons pas s'il a plongé. Commandant, je vous prie de m'excuser, je sais que vous êtes, je vois que vous êtes sur le départ, apparemment vous partez. Apparemment vous partez, nous ne savons pas encore si vous avez plongé ou pas. Attention.
Ben, j'ai plongé trois fois, oui, mais pas quatre. Mais
aujourd'hui, est-ce que vous avez plongé ?
Non, pas aujourd'hui.
L'écho que nous avions, dont nous, on nous avait prévenu ce matin, s'est pas révélé suffisamment intéressant pour que...
Non, il n'y en a pas du tout. Cet écho a été obtenu sur un trou et non pas sur une bosse. Alors, une fois que nous avons vérifié cette chose-là, il est bien évident qu'un sous-marin sur le fond peut pas être un trou. C'est un relief et non pas un relief en creux. Donc, c'est absolument inutile. Il n'y avait rien dans les environs. On a ratissé au peigne fin de mètre en mètre. On a des kilomètres d'enregistrement. Il n'y a rien dans cette région, je peux le garantir.
Vous partez, commandant, est-ce que vous faites la soucoupe ?
La soucoupe entre à Marseille demain, elle est toujours disponible au cas où il y aurait du nouveau. Mais malheureusement, maintenant, la période dramatique est terminée.
5 jours après la disparition du sous-marin, le commandant Cousteau est résigné. On ne retrouvera personne en vie, malgré les moyens déployés.
Commandant, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que on a tout fait ?
Ah, moi, j'étais étonné de voir la multiplicité des moyens, l'harmonie des recherches... la façon remarquable dont c'était organisé. Vous voyez, l'Institut français du pétrole, l'OFRS, la marine, tout le monde a collaboré, l'Institut océanographique avec l'INARETA. Il n'y a vraiment pas eu une fausse note dans cette recherche, qui a démontré en tout cas que le sous-marin n'était pas à petite profondeur, on peut le dire maintenant d'une façon certaine.
Merci, commandant.
Une semaine plus tard, une cérémonie d'hommage honore la mémoire des 52 marins de la Minerve. C'est le président de la République, le général de Gaulle, qui salue leur sacrifice.
Ces marins sont morts en mer. Ils étaient des volontaires. C'est-à-dire qu'ils avaient d'avance accepté le sacrifice et qu'ils avaient un pacte avec le danger. C'est pour cela en particulier que le sous-marin Minerve a laissé au cœur de la France tout entière un souvenir profond et à ses armées un exemple qui durera. Au nom de la patrie, je salue leur mémoire.
Tous les scénarios possibles vont être envisagés pour expliquer la disparition de la Minerve. Quand 51 ans plus tard, la Marine nationale, à la demande des familles des marins disparus, entame des recherches avec de nouveaux moyens techniques. Le capitaine de frégate Alain Thomas dirige ses nouvelles opérations de recherche.
On a réouvert un certain nombre de dossiers avec des cartes, des documents d'époque, des comptes rendus quasi manuscrits. Et on est reparti des faits bruts. Aujourd'hui, on dispose à la fois de moyens de recherche avec les drones. La zone a pu être précisée grâce aux moyens très performants du CEA. Et puis, les outils de simulation et les outils d'observation liés à l'océanographie nous permettent d'avoir une zone de recherche plus restreinte qu'à l'époque.
Alors, située à 35 km des côtes toulonnaises, cette première zone de recherche est grande d'environ 100 km². C'est la taille de la ville de Paris, une zone jamais explorée par des moyens modernes. À l'époque, on pensait que le sous-marin avait sombré un peu plus proche, à 25 km des côtes. L'espoir donc est grand. Pour la première fois, les familles se sentent et y croient. Ils se sentent soutenus. Et c'est un bateau et un drone qui vont réaliser une cartographie pour essayer de repérer une masse. Et en repérant cette masse, on pourra aller envoyer un robot de quoi en tout cas repérer ce sous-marin Minerve disparu depuis 51 ans.
Le 21 juillet 2019, à 21h10, les équipes identifient une épave dont les trois premières lettres sont très visibles, M-I-N. Aucun doute possible. Cette découverte ne permet pas d'expliquer les causes du naufrage, mais c'est un immense soulagement pour les familles des victimes. Comme pour cette veuve de marin qui avait 26 ans en 1968, quand la Minerve a sombré.
J'étais persuadée que la Minerve serait localisée. Ça, c'était certain pour moi. Mais cette attente, ces 50 ans d'attente, c'est quand même long. C'est une vie. d'attente. C'est ne pas avoir d'informations, ne pas avoir la raison, le lieu ou le pourquoi. Elle commence, c'était impossible. Le fait qu'on les retrouve m'apaise. Je vais pouvoir faire mon deuil. Mes enfants vont pouvoir faire leur deuil. On va pouvoir rendre un dernier hommage, bien entendu, aller sur les lieux, faire une cérémonie, bien entendu, d'adieu et se dire, ils sont là. Voilà, c'est la sépulture marine, mais ils ont enfin une sépulture. Enfin.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1968.
C'était Sympathy for the Devil des Stones en 1968.
1968, on de la traconte sur Europe 1.
En mai 1968, les directeurs de RTL et d'Europe numéro 1, Jean Farand et Maurice Siegel, annoncent qu'ils vont proposer à leurs auditeurs une expérience commune et inédite de la radio en relief, autrement dit en stéréo.
Nous avons voulu, un peu, n'ayant pas, nous, 94 relais à notre disposition pour couvrir tout le territoire, décider de nous amuser un soir, de faire une tentative, et cette tentative, c'est cette soirée que nous vous proposons. C'est une soirée en stéréo, et j'aimerais bien d'ailleurs que Farand complète un peu ce que je dis.
Ce que je peux dire, puisque... Nous parlons effectivement dans des conditions stéréo. Ce que je peux dire sur ce que vient de dire Maurice Siegel, c'est que notre souci dans cette tentative, dont nous ne savons pas d'ailleurs, nous le disions tout à l'heure, si ce sera la première ou si ce sera la dernière, on ne le sait pas du tout, notre grand souci, c'est de répondre à notre vocation, c'est-à-dire d'apporter quelque chose au public. Alors, qu'est-ce que nous allons lui apporter mercredi prochain? Nous allons lui apporter une qualité technique particulière, puisque... C'est une sorte de radio en relief que nous ferons. Et nous allons lui apporter d'autre part un programme de variété de 20h30 à 23h qui aura également, nous l'espérons, une qualité très particulière puisque tant au plan de la musique qui sera extrêmement soignée qu'au plan des vedettes qui viendront, nous essaierons de réunir tout ce qu'on peut faire de mieux et d'additionner toutes nos possibilités.
Lucien Maurice, le directeur général d'Europe numéro 1, détaille cette idée d'association éphémère entre les deux radios concurrentes.
Pourquoi cette opération ?
C'est un moyen certain pour tenter une expérience nouvelle qui fera très plaisir aux auditeurs qui se mettront dans les conditions requises pour écouter de la stéréophonie.
C'est ce que vous appelez vous-même une expérience de radio totale ?
Absolument, de radio en relief. il faudra deux récepteurs, l'un à gauche, l'un à droite, se mettre environ à 2 mètres au milieu et écouter. Alors il y aura des effets extraordinaires, aussi bien musicaux, on entendra la voix sur Radio Luxembourg et l'orchestre sur Europe, ce qui donnera un sentiment de relief intégral, ou un train, et on aura l'impression que le train arrive dans la chambre, dans la pièce où se trouve l'auditeur, et traverse cette pièce pour partir.
Europe numéro 1 et RTL vont proposer une émission qui combinera ce qui se fait de mieux chez chacune des deux stations de radio.
D'abord, nous mêlons les animateurs. C'est-à-dire que Jean-Yann présentera avec Francis Blanche, Philippe Bouvard avec Biro, Georges Decaune avec Jacques Martin, Jacques Ourevitch avec Jean Bardin, Hubert avec Roscoe, Albert Simon, j'espère qu'il se disputera sur le temps avec Jean Breton, à moins qu'il ne tombe d'accord pour nous indiquer du beau ou du mauvais temps pour les vacances, et Ben contre Bernardet.
Mais ce sera un dialogue de studio à studio où vous pensez travailler ensemble?
Un dialogue de studio à studio, enfin on travaille ensemble, mais on est obligé d'enregistrer ce programme sur bipiste, sur deux pistes. Les explications techniques seraient trop longues, enfin une piste A, une piste B, tous les gens connaissent maintenant les magnétophones, et Ben passera sur Europe, et la réponse sera donnée par Bernardet sur Luxembourg.
Et donc, le 8 mai 1968, à 20h30, RTL et Europe numéro 1 marquent l'histoire de la radio française avec le premier programme en relief, enfin, en stéréo.
Et bien maintenant, les deux antennes, celle d'Europe numéro 1 et celle de Radio-Télé Luxembourg, sont couplées. Roger Crécher au micro pour Radio-Télé Luxembourg.
Et Jean Peigné pour Europe numéro 1.
Il nous reste quelques secondes pour vous annoncer ce programme. Et si nous sommes là maintenant, c'est pour vous permettre de faire quelques réglages techniques. Puisque si vous avez vos deux récepteurs, vous devez entendre la même modulation. Vous devez nous entendre pareillement sur Radio-Télé Luxembourg, poste de gauche. Sur Europe numéro 1, poste de droite.
Oui, alors je vous précise tout de suite que si malheureusement pour vous, vous n'avez qu'un récepteur, restez à l'écoute car vous pourrez suivre notre émission dans des conditions parfaitement acceptables. Et si vous avez la chance alors là d'avoir deux récepteurs, mettez-en un à gauche en V si vous voulez, l'autre à droite en V et réglez bien la puissance. Vous étant au milieu, donc les deux récepteurs et vous formant un triangle pour que vous entendiez de la même manière, avec la même puissance, les deux émetteurs. Il faut qu'actuellement, vous ayez l'impression que nos voix sont au milieu et non pas qu'elles sont à droite ou à gauche.
Une fois les réglages bien effectués, feu ! Jean-Yann de RTL et Francis Blanche d'Europe numéro 1 ouvrent le bal.
À vous les studios stéréo.
Francis, bonjour, et que toutes les bénédictions du ciel tombent sur ta tête chenue et auguste.
Auguste toi-même, bonsoir Jean-Yann.
Eh oui, depuis des années, il faut bien l'avouer, la guerre des radios n'était pas une vaine expression.
Non, le ciel était chargé d'éclairs et de nuages, et puis un jour, voix élégiaque, et puis un jour, la colombe de la paix chanta.
Oui, c'est bon. Une colombe.
Non, mais il paraît que ça passe mieux en stéréo.
Ah bon, d'accord. Enfin, de toute façon, ce chant symbolique de la colombe vous montre que maintenant la paix existe et totalement entre les deux stations. D'ailleurs, Francis a trouvé une voix neutre.
Oui. Exactement.
Qu'est-ce que t'as fait hier soir encore ?
C'est un grand événement quand même que cette soirée commune RTL Europe numéro 1.
Alors c'est la première fois dans l'histoire de la radio que ça existe, et la première fois que ça existe également dans le domaine de la stéréophonie, mais ça n'a pas été sans mal.
Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce soir-là, même les infos sont réalisées en commun par les deux rédactions des deux radios.
Eh bien, il est 21h01 et nous allons marquer une petite pause dans cette soirée stéréophonique avec un bulletin d'information présenté par René Duval d'Europe numéro 1 et Jean-Pierre Farkas de RTL.
Oui, c'est donc également pour l'actualité l'heure du rendez-vous. Les journalistes de nos deux équipes devaient aussi se retrouver. Au moment où nous parlons, le cortège des manifestants est en train de traverser le quartier latin en faisant pratiquement le tour du quartier de la Sorbonne. Les manifestants sont aussi nombreux, entre 12 et 20 000, mais encore mieux encadrés qu'hier soir. Le service d'ordre de l'UNEF a reçu tout à l'heure de la consigne formelle d'éviter tout contact avec les gendarmes mobiles et les CRS qui bouclent le quartier de la Sorbonne. Cependant, malgré la volonté réciproque d'apaisement et de désescalade, après les jours de violence que nous venons de connaître, on peut évidemment toujours craindre un incident.
En ce 8 mai 1968, ça commence à tonner du côté du quartier latin. Et très vite, Europe numéro 1 mettra de côté ses expériences de radio en relief pour se consacrer au soulèvement des étudiants.
Je serai pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête dans le château, dans le château de la. Je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. Je serai pendu demain au jour, dommage pour la fille de ce château, car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille loin du château, dans le château de Laz, pour les 20 ans de Jane, Lord et Lady de Laz avaient reçu la reine. Moi je crevais de haine, caché dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé.
C'était le bal des Laz, titre phare du deuxième album de Michel Polnareff en 1968. Nous sommes donc au bout de ce premier épisode de l'année 68. Je l'ai écrit avec Guillaume Maury et Julien Pichenet. Guillaume Vasseau signe la réalisation. La suite de notre balade dans l'année 1968, dans le deuxième épisode.
Retrouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.